quel événement important va se passer dans quelques jours? Très bien. L'événement important qui va se passer dans quelques jours va mobiliser. Pourquoi je dis important? Parce que ça va mobiliser des milliers, peut-être même des millions d'individus sur la Terre à faire toutes sortes d'activités autour de cette déclaration qu'on nomme Assomption. Assomption. Rien à voir avec l'ascension. L'ascension, quand on parle de l'ascension, c'est lorsque Jésus est monté au ciel et que les disciples ont vu. C'est un récit qui est biblique. Pendant que Jésus leur parlait, hop, ils ont vu le corps de Jésus s'élever dans le ciel et partir. Et l'assomption, je ne sais pas pourquoi ils ont changé de nom pour ça, alors que c'est, selon les catholiques, le même événement qui se sera produit, à part que la différence est que le corps de Marie aurait été mort, et on rediscutera de ça la prochaine fois, la vendredi prochain, et hop, le corps de Marie serait parti comme ça dans le ciel. Et c'est quand même un sujet qui est important, parce que ici ou là il y a des panneaux qui parlent de Marie, l'assomption de Marie, ceci, cela. Il est important de comprendre les tenants et les aboutissants de ce genre d'événements. Je parle d'événements, pas seulement d'événements populistes, au sens où ça va drainer beaucoup de gens, où ça crée une popularité, mais un événement spirituel. Parce que ce n'est pas en vain que des millions de gens invoquent un individu. Pas en vain. Quand le peuple de Dieu invoque le nom de l'Éternel, ce n'est pas en vain. Quand des multitudes invoquent le nom d'Allah, pas en vain. Quand des multitudes invoquent le nom de Marie, ce n'est pas en vain. Il est important d'en comprendre la substance. Alors, je vais proposer une chose, c'est que ce soir, on puisse échanger sur ce que dit la Bible sur Marie, et j'ai voulu surtout sortir les bons exemples que Marie représente pour nous. Certains disent « Ah, mais vous ne croyez pas en Marie ?» Ben si, on croit en Marie, elle est dans la Bible. Donc il y a plein de choses, il y a un très bel enseignement sur Marie et de belles leçons à retirer pour nos propres vies. J'en ai relevé quelques-unes, je ne les ai pas énumérées, mais il y en a bien 5-6. Et j'ai peut-être certainement pas vu et pensé à tous les aspects de la vie de Marie, mais il y a pour nous un exemple au travers de Marie. Et puis, vendredi prochain, nous verrons justement l'abus théologique que l'on a fait sur Marie. C'est-à-dire ce qui n'est plus du tout dans la Bible et ce que l'on essaye de communiquer de la personne de Marie, au-delà du bon exemple qui nous est laissé dans la Bible. Bon et moins bon, parce que Marie était une femme comme les autres. On a déjà vu que tous les personnages bibliques que l'on a pu étudier, il y a toujours du bon, et puis il y a la face noire. Mais bon, on ne va pas leur jeter la pierre. Et Marie faisait partie de ces personnes. Alors on ne peut pas non plus lire tous les textes, donc j'ai juste pensé à lire avec vous le passage qui parle le mieux, je trouve, de Marie et qui la présente dans les premières lignes. Donc dans Luc chapitre 1er, on va lire à partir du verset 26. C'est peut-être l'événement le plus important de la vie de Marie. Enfin, je ne suis pas dans sa peau, mais quand même c'était un événement unique au monde, celui de l'annonce de la naissance de Jésus. Luc chapitre 1er verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge qui était fiancée à un homme de la maison de David qui s'appelait Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » troublée par cette parole. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? » Sous-entendu, je n'ai point de relation avec un homme. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Étonnante histoire quand même. Hein. Étonnante histoire. Pourquoi Marie ? J'ai pas de réponse à cette question. Il y a deux aspects à cette question. La première, c'est de réaliser, en tout cas, que ce n'est pas par mérite. Il est dit deux fois, au verset 28 et au verset 30, l'ange dit que Marie a trouvé grâce. C'est-à-dire qu'elle a trouvé la faveur de Dieu. C'est un cadeau. Marie n'était pas... L'ange ne dit pas que Marie a fait quelque chose de particulier pour qu'elle, elle puisse devenir la mère porteuse de Dieu. C'est une grâce, c'est une faveur. Et il faut que nous réalisions aussi dans notre vie que l'amour de Dieu peut venir dans notre cœur, non pas parce que nous méritons quoi que ce soit, mais parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu nous aime tous. Dieu a tant aimé le monde. On ne peut pas mériter la faveur de Dieu. On ne peut pas mériter la grâce de Dieu. On ne peut pas mériter l'action de Dieu dans notre vie. Mais Dieu le veut. Dieu n'a pas pu faire naître Jésus dans toutes les ventes de chaque maman d'Israël. Mais il faut comprendre que le principe de Dieu est un principe de grâce. Un principe de bonté, un principe de générosité. Marie, elle, a porté le Saint-Enfant. Mais réalisons aussi que pour chacun d'entre nous, nous sommes aussi dans cette capacité-là. Non pas d'enfanter un enfant. Nous serions, nous les hommes, tous mis de côté. Mais nous avons la possibilité de devenir le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tous les êtres humains qui le demandent et qui aspirent peuvent devenir demain des porteurs de la grâce de Dieu, de la présence de Dieu en eux par le Saint-Esprit. Dieu veut habiter en nous. Dieu veut habiter dans chacun des cœurs. Dieu veut habiter dans l'intimité, dans la personne de chaque individu. Et ça, c'est un mérite ou c'est une grâce ? C'est une grâce. Et nous pouvons, et nous le devons, je dirais même, dire « Seigneur, viens habiter dans mon cœur. Viens habiter dans ma vie, s'il te plaît. Je sais que je ne le mérite pas. Je sais que je suis pécheur. Je sais que je ne suis pas quelqu'un de particulièrement meilleur que les autres. Mais s'il te plaît, viens habiter dans mon cœur. » Et Dieu prend plaisir à venir habiter dans le cœur de l'être humain. On est particulièrement fait pour ça, parce que nous sommes profondément spirituels. Pourquoi Marie ? Et c'est ce que nous allons un peu plus développer là maintenant. Je pense toutefois que si c'est une grâce que Dieu ait choisi Marie, je pense quand même que Dieu n'a pas pris n'importe qui pour porter son fils. On va voir que Marie présente des caractéristiques que je souhaiterais personnellement avoir et que je pense que si chaque enfant de Dieu cultivait, pourrait grandir en sanctification, en grâce et en pureté. Ce n'est pas donc un hasard, c'est une grâce. Ce n'est pas non plus un mérite, mais il y a quand même dans la vie de Marie un contexte favorable pour laisser l'action de Dieu agir dans sa vie. Il nous est parlé au verset 27 que Marie était vierge. Effectivement, et c'est un point quand même important, c'est une jeune fille. Cette jeune fille fréquentait un jeune homme qui s'appelait Joseph. Et ces deux tourtereaux avaient l'honneur de rester dans la pureté. Allez cogner auprès de vos jeunes gens, allez sonder les lycéens et demandez-leur s'ils se gardent purs pour le mariage. Les gens vont vous regarder, ils vont vous ricaner aux yeux. Ils vont même vous montrer leurs nouvelles applications qu'ils ont sur téléphone, où il suffit juste de sélectionner un gars ou une fille pour faire ce qu'il y a à faire pour la soirée, et demain on passe à autre chose. Il y a là un exemple de pureté, de vérité, de justice, de droiture devant Dieu. Dieu demande à chaque individu de se garder de toute souillure avant le mariage. Il y a là, dans la culture de Joseph et de Marie et de Joseph, un désir de rester dans la pureté, dans la conduite, dans la droiture. Nous aurons l'occasion de développer la question de la virginité de Marie la semaine prochaine, parce qu'effectivement, quelques-uns pensent que Marie est restée vierge toute sa vie. Marie a été vierge au moment où nous le lisons, c'est-à-dire que lorsque l'ange vient lui parler, elle est fiancée, elle n'est pas mariée, elle n'a pas eu encore de relation sexuelle. C'est pour ça que lorsque l'ange lui dit, tu vois, tu vas être enceinte et tu vas accoucher un enfant, elle dit, mais c'est pas possible, j'ai pas de relation. Et voilà quoi, c'est petit, tu sais, ange, tu connais peut-être pas les choses des hommes, mais il faut une relation. Non, je sais bien, c'est pas ton Joseph, c'est pas un homme qui va faire cette action, c'est le Saint-Esprit qui va créer en toi cette naissance surnaturelle. Ah bon? Bon, bah, je suis ta servante. Mais n'empêche que, quand même, ça crée des problèmes. Parce que, bon, on verra que Joseph, lui, quand il a appris ça et qu'il a vu commencer, ou que Marie a discuté, ou que le ventre commençait à se profiler, le gars, il a dit, tu m'as berné, toi, là. Il voulait même rompre avec elle, parce que c'est pas possible. Mais certains pensent que Marie a été vierge même après. Pourquoi je prends le temps? Parce qu'on va développer la vie de famille. Il y a juste un élément, on pourrait en voir d'autres, mais en Luc, si vous tournez une page, ce sera le seul argument qu'on développera ce soir, mais on en verra d'autres la semaine prochaine. Luc chapitre 2, versets 6 et 7, par exemple, il est écrit « Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Okay? Et elle enfanta son... » Qu'est-ce qui est écrit dans votre Bible ? Son... Son fils premier-né. Sous-entendu, ça veut dire quoi quand on dit un fils premier-né? C'est qu'il y en a au moins eu un autre après. Sinon, on aurait dit son fils unique ou son fils, ou tout simplement. Donc voilà, ça c'est un des éléments qui nous font comprendre qu'effectivement, lorsque Marie a eu Jésus dans son ventre, elle était vierge, bien sûr, mais elle a continué à se marier avec Joseph, d'ailleurs ils se sont mariés, et avoir des relations qu'un couple doit avoir, et avoir eu d'autres enfants. On verra même la semaine prochaine quelques noms. Pourquoi développer ça? Parce que la maternité de Marie, pardonnez-moi, n'est pas un péché. Je dirais même au contraire que dans la culture juive, avoir des enfants, c'était un signe de bénédiction. Il y avait des promesses qui parlaient que la jeune fille serait une mère comment on dit, généreuse, productive, je ne sais plus le terme, il y a sûrement un terme biblique plus adéquat, mais qu'elle serait la mère de nombreux enfants, c'était un signe de bénédiction. Et Marie a eu plusieurs enfants, je crois qu'il y a au moins 4 frères, plus Jésus et plus des sœurs. Donc il y a eu une marque de la bénédiction de Dieu sur la vie de Marie, au travers non pas de sa virginité, mais au travers de la multitude d'enfants qu'elle a pu avoir. Cette maman. Et je souhaiterais que toutes les mamans de nos églises puissent être comme cette maman. Car Marie a été un modèle de foi. Elle a créé un climat de foi dans son foyer. Marie, on la voit, elle est attachée à recevoir l'annonce de l'ange avec simplicité. Un ange débarque, il lui dit « Tu vas être enceinte, mais c'est pas possible. » Et puis après, il lui explique « Si, si, tu vas, il y a le Saint-Esprit qui va venir, etc. Et » Et la seule chose qu'elle dit « Ok, je suis la servante. » On voit une simplicité. Ça, nous, on lit ça, on dit « Bah oui, c'est normal, attends, un ange qui vient, tu ne discutes pas avec lui. » Mais pourtant, si vous regardez d'autres situations, les autres n'ont pas réagi comme ça. Alors rappelez-vous, lorsque l'ange est allé voir les parents de Samson, ils ont discuté, ils n'y ont pas cru. Ils ont commencé à discuter, ils ont même réclamé à ce que l'ange revienne pour être bien sûr que c'était un ange. Quand vous regardez Zacharie, l'histoire d'avant, un chapitre avant, l'ange dit à Zacharie, « Parce que tu ne m'as pas cru, tu vas devenir muet. » Mais on voit que Marie, elle entend un message encore plus extraordinaire que tous les autres. Et elle prend ça avec foi. Elle a cru. D'ailleurs, c'est sa tante qui va lui dire un peu plus loin, « Tu es heureuse, toi qui as cru à ce que l'ange t'a annoncé. » Marie est une femme de foi. Elle entend quelque chose qui la dépasse. Et pourtant, elle y croit. Je voudrais vous donner une petite comparaison du caractère extraordinaire de la situation. Et à la fois, replacer la culture des jeunes filles de l'époque. Ce qui est arrivé là aurait pu la bouleverser par rapport à la hauteur de l'annonce. Mais pourtant, elle ne paraît pas commencer à dire « Mais attends, c'est quoi tes histoires ?» Est-ce que c'est un ange? Est-ce que c'est un démon? Etc. Non, non, non. Pourquoi? Pourquoi est-ce que quelque part, elle croit, elle accepte cette parole? Parce que le peuple juif, qui avait l'Ancien Testament, ce que nous appelons l'Ancien Testament, qui était les prophètes, en tant que bonne juive, elle connaissait les Écritures. Et elle avait entendu parler des prophéties qui annonçaient, notamment dans Ésaïe chapitre 7, que la jeune fille, la Vierge, enfanterait le Messie. Et dans l'esprit de toute jeune fille de l'époque, elles étaient toutes dans l'attente d'être peut-être cette jeune fille qui un jour porterait le Messie. Imaginez, un peu comme aujourd'hui, même si les princes sont déjà pris, mais vous êtes en Angleterre et vous êtes une jeune fille. En tant que jeune fille anglaise dans votre royaume, même aujourd'hui, vous pouvez toujours imaginer qu'un jour vous rencontrerez le prince et que peut-être le prince vous ferait de l'œil et que vous finiriez par vous marier avec elle. Mais oui, en tant qu'anglaise c'est possible, en tant que français c'est pas possible. Mais une Anglaise dans son esprit peut, dans son esprit, en son fort intérieur, se dire « C'est vrai, il y a peut-être une chance pour que je puisse rencontrer le prince et que je devienne la Kate Middleton 2040 ou la Diana de 2030. » Ce qui est possible en Angleterre pour les jeunes filles était possible et était dans l'esprit des jeunes filles juives de l'époque. Elle savait qu'il y avait une prophétie qui parlait qu'une jeune fille deviendrait enceinte et qu'elle porterait un enfant qui s'appellerait Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, quand l'ange intervient, quand l'ange va voir Marie, Elle est effectivement, certainement, mais éblouie, dépassée par cette annonce. Oh, c'est moi! Donc, ce qu'on nous raconte depuis des siècles, ça arrive et c'est sur moi que ça tombe. Mais elle est dans une disposition de foi. Je me tiens à ta disposition, Seigneur. Fais, je ne suis que ta servante. C'est une femme qui va recevoir, elle a cette dimension de foi, elle a cru. Mais on voit que c'est une femme qui n'avait pas commencé ou qui ne commencera pas à avoir une vie de piété. C'est une femme, comme on l'a vu, qui était déjà pure dans sa conduite, notamment avec son jeune homme. Et permettez-moi de vous dire qu'elle n'a pas pris n'importe quel jeune homme, cette Marie. Joseph, on ne sait pas grand-chose de Joseph, c'est vrai. Mais on le voit après, comme il est sensible à la voix du Saint-Esprit. Par les songes, il se laisse interpeller par Dieu au travers des songes et il obéit à Dieu. Marie n'a pas pris un homme léger spirituellement. Elle a voulu, elle certainement, parce que de toute façon, parce qu'elle s'attache aux choses de Dieu, parce qu'elle aime la parole de Dieu, parce qu'elle est, elle a certainement cette dimension de foi. Elle choisit aussi un jeune homme qui s'attache aux choses spirituelles. Et ils seront un couple qui, et on le voit, qui est scrupuleux dans l'obéissance de la parole de Dieu. Et c'est bien placé dans le texte qu'ils firent cela parce que c'était écrit dans les Écritures. Et voilà un couple qui est attaché à la parole de Dieu. Marie n'est pas seulement une mère porteuse. On voit qu'elle communiquera cette foi à ses enfants. On le voit qu'en Jean chapitre 7, que ses enfants vont partir au temple. Ils vont participer aux fêtes de l'Éternel. Marie et Joseph n'ont pas laissé leurs enfants faire un choix. Bah, tu verras, quand tu seras plus grand, tu feras ton choix. Non, ils ont éduqué leurs enfants dans les voies de l'Éternel. On voit qu'ils s'attachent au service. Que Dieu nous trouve, et là je parle à chaque parent, soucieux et scrupuleux de communiquer la foi à nos enfants. Que nous soyons des hommes de foi, amen. Que nous soyons des femmes de foi, amen. Que nous puissions associer notre conjoint à cette dimension de foi. Et que nous accompagnions et que nous montrions à nos enfants ce qu'est la marche par la foi. Marie, à cet égard, nous donne un modèle de responsabilité spirituelle. Elle a cru. C'est ce que on peut lire ensemble, Luc chapitre 1, verset 45. Mais ça, donc, c'est sa tante Élisabeth qui va lui dire « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Elle a cru. Alors, on a vu, elle a cru parce que elle a écouté les paroles de l'ange et elle n'a pas cherché à se défendre, elle n'a pas douté de ce qu'il a dit. Mais permettez-moi d'aller un petit peu plus loin. Elle n'a pas cru seulement au moment où l'ange a parlé. Il est dit dans Matthieu chapitre 13, c'est Jésus qui emploie une parabole. Il dit qu'il y a des personnes qui ont leur cœur semblable à un terrain, qui ressemblerait à de la roche. Et là où la semence tomberait, la plante pousserait et parce qu'il manque de racines, ça flétrirait et ça mourrait. Et Jésus explique cette parabole, il dit, ça c'est semblable à ceux qui entendent, qui reçoivent la parole avec joie. Ils sont contents de cette bonne nouvelle. Mais parce qu'ils n'ont pas assez de racines, et dès que survient une tribulation, dès que survient une difficulté à cause de la parole de Dieu, alors ils se retirent. Sous-entendu, que le bon effet de la parole de Dieu, qu'ils ont reçu, ils l'ont reçu avec joie, oui la bonne nouvelle, l'évangile est formidable, mais dès qu'il y a une perturbation, dès qu'il y a un doute, dès qu'il y a une persécution, alors là, non, là ils ne s'engagent plus dans l'œuvre de Dieu, et ils se reculent. Marie a entendu les paroles de l'ange, elle a dit « Ok, je suis ta servante. Mais n'empêche que ça devait être difficile de supporter tous les aléas. Nous, on voit juste le beau côté, l'ange qui débarque, la fille qui écoute, c'est formidable, hop, elle est enceinte, elle accouche, ah, c'est formidable. Mais imaginez, les qu'en dira-t-on ? Le voisinage. Et comment on explique ça aux parents ? Déjà avec Joseph, ça a chauffé. Joseph a voulu se séparer d'elle. Mais c'est averti par un songe qu'il a finalement accepté de conclure un mariage avec elle. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont dit, les autres ? Tu t'es fait avoir, hein, Joseph ? Non, non, je t'assure, c'est vraiment par le Seigneur qui me... Ouais, ouais, ok. Bah, oui, oui, respectueusement, on va t'écouter, Joseph. Oui, oui, Marie. Tu fais ta gentille, mais... Il y a tout ça à gérer. Les qu'en dira-t-on ? Ah, toi, tu vas à l'église évangélique, mais c'est une secte, là-bas. Mais non, je t'assure, ils croient en Jésus. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, fais gaffe, hein. Tu vas te faire avoir. Il y a tous les à côté. Les qu'en dira-t-on ? Les jugements. Et qu'est-ce que va dire un tel ? Et comment va réagir la famille ? Comment va réagir les collègues de travail ? Et si je prends position ? Et si je dis non à ça ? Comment le groupe va réagir ? Et quelles conséquences ça va avoir ? C'est facile d'accepter le message de l'évangile. Dire, ah oui, Jésus sauve, Jésus guérit, c'est formidable, j'ai connu un monsieur. Il venait à l'église. Il y était avant que moi j'arrive à l'église. Il y était encore quand je suis parti de l'église, d'où j'étais. Je suis resté 10 ans dans cette église. Et cet homme n'a jamais dit à sa famille qu'il allait à l'église. Par peur de réaction. On se dit, mais c'est étonnant. Comment est-ce que c'est possible de vivre sa foi à la cachée ? Certains ont même déserté l'œuvre de Dieu parce qu'ils avaient peur plus des hommes et des conséquences que de la vérité. Marie gardait, elle a gardé la foi. Et il nous est dit à plusieurs reprises, pour ceux qui prennent des notes, c'est en Luc chapitre 2 verset 19 et Luc chapitre 2 verset 51. Il nous est dit que Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Voilà, certainement une clé de la force de Marie. C'est qu'elle a pu supporter les qu'en dira-t-on, elle a pu supporter peut-être les moqueries, elle a peut-être supporté les humiliations, probablement, de l'entourage. Parce qu'elle gardait toutes ces choses dans son cœur, les promesses de Dieu, la parole de Dieu. Elle était là comme une femme qui savait qu'elle portait en elle, dans son ventre, mais plus encore dans son cœur, des promesses que aucune humiliation ne pourrait retirer. Marie n'est pas une femme parfaite au sens qu'elle est exempte d'erreurs et de péchés. Et n'importe qui aurait une lecture normale, sans préjugés de la Bible, s'apercevrait qu'il y a eu quelques incompréhensions entre Marie et Jésus. Il y a eu quelques frictions relationnelles. On ne connaît pas tout, mais on en a quand même quelques-unes où on s'aperçoit qu'entre Marie et Jésus, on connaît à Cana, en Jean chapitre 2, une situation où Marie dit aux gens, allez voir Jésus, il va arranger le problème. C'était à cette fête où il manquait du vin et on se dit, mais comment ça se fait, Marie, que tu prennes le devant et que tu ailles voir les gens et que tu dis, allez voir Jésus, Jésus va faire quelque chose pour vous. Et c'est là que Jésus a une parole, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi ? Sous-entendu, mais qu'est-ce que tu viens t'ingérer dans mes affaires ? Est-ce que... Une autre situation, Marie et les frères d'ailleurs de Jésus, ensemble, ont même pensé que Jésus était devenu fou. Pas facile, genre de relation quand quelqu'un de la famille vous dit, commence à vous dire, mais t'es cinglé, ça va pas toi. Ça fait mal, hein, ce genre de parole, n'est-ce pas ? Quand ce sont les gens de l'extérieur, c'est dur, mais quand ce sont nos propres frères, nos propres parents qui nous disent, mais tu devrais pas aller acheter un psychiatre, toi. Mais ça s'est passé. En Marc, chapitre 3, où vous le verrez. Et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que, encore publiquement, Jésus va dire à la foule, ma mère, mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Waouh, là aussi, pour la mère, c'est pas facile d'entendre ça. Si vous commencez à dire à vos parents, tu sais, moi ma vraie famille, c'est l'Église, je vais vous dire que vous allez faire du mal au cœur de vos parents. Hein. Il y a même un moment, une altercation entre Jésus et ses frères, vous le lirez en Jean chapitre 7. Il y a un peu les frères qui le taquinent, là, qui le poussent. Toi, tu te prends pour le prophète, là. Ben, vas-y, va à Jérusalem, va te montrer à tous, allez, vas-y. C'est de pique qu'on nous envoie, là. Ah oui, tu crois meilleur que les autres, toi, hein. Allez, vas-y. Vas-y, va faire ton prédicateur, va faire ton pasteur, allez. C'est toi qui connais la vérité, nous, on connaît rien, c'est ça. Hein, allez, vas-y. Et Jésus va dire, pour vous, c'est toujours le moment. Hein. Allez-y sans moi, la fête, c'est bon. Donc on voit qu'il y a des situations de tendues entre Marie, avec ses frères et tout. En fait, il faut comprendre une chose, et c'est ce que nous devons retenir comme bon exemple. C'est que si on voit Marie intervenir comme ça, comme aux noces de Cana, si on voit Marie qui s'inquiète pour son fils parce qu'elle commence à dire « mais il a perdu la tête », si effectivement il y a ces situations-là, il faut comprendre qu'il y a une part d'incompréhension. Parce que on pourrait même se dire « mais c'est bizarre parce que Marie d'un côté, elle sert tout ça dans son cœur et d'un autre côté, elle est maladroite avec Jésus. Si elle savait que c'était le Messie, elle devrait le laisser faire. Elle devrait se dire « bah, il sait mieux que moi ». Mais en fait, il y a une incompréhension. Elle n'est pas seulement partagée par Marie et par les frères, elle est partagée même par les disciples de Jésus. Il y avait une incompréhension parce qu'il y avait une mauvaise conception de ce que devait faire le Messie. En fait, pour la plupart des Juifs, lorsque le Messie viendrait, il allait venir comme un tout-puissant, comme un chef. Comme le mec qui allait résoudre tous les problèmes de la société de Jérusalem. Il allait être établi roi, il allait devenir puissant, il allait enfin mettre dehors tous les Romains, il allait solutionner tous les problèmes et il instaurerait un règne de paix sur la terre entière. C'était ça la pensée du Messie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque il y a eu les élections, la préparation des élections d'Obama, plusieurs ont titré que Obama était comme le Messie. Eh oui, dans un pays qui a connu la ségrégation, qui a connu cette lutte des blancs contre les noirs, des noirs méprisés, ils se sont imaginés que si on a enfin un président noir à la tête de notre pays, tout ça va être fini. Tous ces problèmes de clans, de caste, ça va être résolu. On va enfin retrouver la justice, la paix. Et vous connaissez la suite de l'histoire et les actualités quotidiennes. Obama n'était pas le Messie. Et les gens s'étaient fait une fausse idée de ce Obama qui serait peut-être la providence, la solution, parce que lui, il est noir. Il ne suffit pas d'avoir la couleur de peau pour faire changer les choses. Et le Messie que les Juifs attendaient, c'était un Messie qui régnerait, qui résoudrait tous les problèmes politiques, religieux, militaires. Alors que lorsque Jésus est venu, il est venu comme le Messie. Il est véritablement le Messie. Mais ce n'est pas sur un peuple. Ce n'est pas sur un territoire. Ce n'est pas sur des limites matérielles que Dieu veut régner. Il est venu régner dans les cœurs. Il est venu souffrir pour porter les péchés. Il est venu pour régler le problème du péché, de ce qui détruit réellement l'homme. Non pas la servitude militaire des Romains, mais la servitude du péché. C'est ça qui rend l'homme malheureux, esclave. Et Jésus est le Messie. il est venu accomplir sa mission. Mais c'est vrai que Marie, les frères et les disciples n'avaient pas compris ça. Ils s'attendaient à autre chose. C'est pour ça que lorsque Jésus est mort, ils étaient tous KO. Ils sont dit, ah mince, notre Obama est mort. Que ce soit lui qui soit président et il est mort. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant alors? Donc il faut comprendre que Marie, qui avait une mauvaise conception du Messie, une mauvaise conception du rôle de Jésus, n'en est pas restée à cette mauvaise conception. Et c'est en ce sens qu'elle est aussi pour nous un exemple. Parce que malgré tout, en Actes chapitre 1, il y a la liste de tous les disciples qui sont en train de persévérer dans la prière, s'attendant à la réception du Saint-Esprit. Et parmi la liste de ces croyants qui sont là dans la chambre haute, il y a la Marie, mère de Jésus. Marie a été face à des incompréhensions. Elle a été face à des situations, elle se dit « Mais pourquoi mon fils fait ça ?» Elle a été même précipitée, c'est pour ça qu'au noces de Cana, elle s'était dit « Il va faire un miracle, et là ça va être le début de la gloire, il va commencer à montrer au peuple que c'est vraiment lui le Messie !» En fait, elle pensait précipiter sa place de roi. Alors oui, il y a eu des incompréhensions, oui, il y a eu des erreurs, mais elle s'est remise en cause. Oui, elle ne comprenait pas le message de l'Évangile, mais elle s'est remise en cause. Oui, elle avait des principes religieux, mais elle les a remis en cause. Oui, il y avait des situations de souffrance, de remise en cause profonde dans sa foi, dans sa conception, dans le regard qu'elle pouvait déjà avoir sur son fils. Parce que quand même, c'est son fils, hein, et on n'a pas le même regard sur ses enfants que sur un étranger. Mais elle a accepté de se remettre en cause profondément. Et elle faisait partie, après la mort et la résurrection de son fils, elle faisait partie des disciples qui ont compris que Jésus est véritablement le Messie et que ce n'est pas sur les circonstances extérieures que Dieu veut régner, mais sur les cœurs, sur les âmes. Et on dit que Marie, elle est catholique, mais elle est pas catholique, elle est pentecôtiste. Elle est là, elle est dans la chambre haute, et au jour de la Pentecôte, elle est là. Marie est pentecôtiste, ça c'est une bonne nouvelle, non? Mais c'est surtout un exemple d'une personne qui est capable de se remettre en cause, qui est capable de remettre en cause ses conceptions religieuses, qui est capable de remettre en cause ses manières de penser. Et que Dieu nous fasse grâce d'être aussi des hommes et des femmes qui soyons capables de nous remettre en cause. Non pas pour tout remettre par terre à chaque fois, mais pour nous rapprocher de Jésus et pour connaître cette bénédiction de la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Et relever un dernier exemple, un exemple de courage et de dignité. Parce que là, nous voyons Marie dans la chambre haute, persévérant dans la prière pour recevoir le Saint-Esprit. Mais avant ce moment de communion avec les frères et sœurs dans la foi, on la retrouve au pied de la croix. Et celui qui est sur la croix, celui qui saigne, celui sur lequel on a mis une couronne d'épines, celui qu'on a frappé, celui sur lequel on a giflé, sur lequel on a craché, celui que l'on a percé, c'est son fils. C'est son enfant. C'est le fruit de ses entrailles. Oui, il y a eu des incompréhensions. Oui, il y a eu des moments difficiles à gérer. Mais ça reste son enfant qui est en train d'être là, traité pire qu'un chien, comme de la viande à pâture. Et Marie n'est pas loin. Même dans les moments difficiles, cette maman est avec son enfant. Elle ne l'a pas abandonné. C'est pas parce qu'elle ne comprenait pas les plans. C'est pas parce que son fils l'avait peut-être quelquefois offensé qu'elle s'est dit « Bah t'as qu'à te débrouiller. Je t'avais bien prévenu. S'ils étaient restés à la maison, toutes ces histoires ne seraient pas arrivées. » Non. Non. Elle met toutes ses blessures personnelles de côté. Et elle est là. Je dirais pas au pied du lit de l'hôpital, mais elle est au pied de la croix avec lui. Marie est cette maman qui reste avec son enfant dans les moments les plus difficiles, les plus sombres. Elle est là. Elle n'est pas là en train de crier. Elle n'est pas là en train d'insulter les soldats romains. Elle ne crie pas à l'injustice. Elle n'est pas en train de faire signer une pétition. Elle n'est pas en train là de faire des gérés méniales. Elle n'est pas en train de tirer des leçons. Elle n'est pas en train de lui donner des leçons. Elle n'est pas en train là de créer le tumulte autour d'elle. Non, non, non. Marie reste digne dans sa souffrance. Elle est là. Au plus proche de son fils. Il n'est pas parlé de larmes, il n'est pas parlé de cris. Il n'est pas parlé de manifestation contre l'injustice. Elle n'a pas développé une haine contre les Romains. Et combien de gens développent de la haine parce qu'ils ont souffert, parce que leur famille a souffert. Alors ils commencent à cultiver de la rancœur, de la haine, un faux combat. Non, Marie, elle accompagne son fils jusqu'au bout. Malgré tout, Marie souffre d'incompréhension. Imaginez le cœur de cette maman. Elle qui serrait dans son cœur toutes les promesses que Dieu avait faites. Elle qui avait porté cet enfant dont il était dit qu'il régnera éternellement. Et là, celui qui devait régner, celui qu'elle a mis au monde, celui qui... Il est là comme un malpropre, comme un assassin, comme un criminel. Elle sait qu'il va mourir. Mais est-ce qu'on est capable d'imaginer l'incompréhension qu'il peut y avoir dans le cœur de Marie? Mais comment c'est possible? Est-ce que Dieu s'est trompé? Est-ce que je me suis trompé? Mais non seulement elle voit son fils souffrir, mais dans son cœur, mais tout s'écroule. Tout s'écroule. Toutes les promesses de Dieu sont comme annulées sous ses propres yeux. Et ça dure, et ça dure. Est-ce qu'elle s'est dit, Dieu va faire un miracle? Imaginez lorsqu'il a commencé à expirer, le dernier souffle à battre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Marie est encore là. Pas de reproche, pas de haine, pas de cri. Mais cette femme qui va demeurer dans la foi, cette femme qui aura connu des épreuves, quelqu'un la décrira comme si une épée lui transperçait l'âme. Et je crois qu'il est très, très facile d'imaginer la souffrance de cette femme à ce moment-là. Mais cette femme n'a pas levé le poing contre Dieu, ni contre les hommes. C'est une femme qui est restée là. Elle a pris même soin d'un des disciples. Que Dieu nous aide également à garder notre dignité, notre foi. Que Dieu nous apprenne à ne pas mener des faux combats devant les injustices, devant la souffrance, devant les incompréhensions des hommes. Que Dieu nous apprenne à rester dignes lorsque les choses nous échappent. Que nous sachions, nous aussi, nous remettre en cause. Remettre nos habitudes religieuses en cause. Nos conceptions sur Dieu en cause. Notre perception de la Bible. Comment ça se fait que les autres sont bénis, nourris, que moi j'ai l'impression que ça va pas, que je comprends pas, pourtant je pense que... Arrêtons de penser. S'il y a une bénédiction à saisir, qu'il y ait cette simplicité de la foi. Que nous sachions serrer la parole sur notre cœur. Garder les promesses et les rechercher. Que nous sachions recevoir la parole de Dieu avec simplicité. En toute douceur, pas chercher à la contester, à la discuter. Seigneur, fais de moi ton serviteur, ta servante. Fais de moi l'homme, la femme que tu veux que je devienne, et que nous réalisions que nous aussi, nous ne serons pas amenés à porter un autre Jésus dans notre ventre, mais que nous puissions être le temple du Saint-Esprit. Dieu peut et veut habiter dans notre cœur. Amen.